violoncelliste, Claire Lamke a fondé l'ensemble Emiolia, qui se consacre à la musique ancienne et au patrimoine musical régional. Guénin Gossec, deux violonistes dans la tourmente révolutionnaire, le second disque de l'ensemble vient de sortir chez Eurydice. Claire Lamke, un mot tout d'abord sur votre parcours musical personnel.
Eh bien, je suis née à Maubeuge, dans la région. J'ai fait tout le conservatoire de Maubeuge jusqu'au bout. Je suis ensuite rentrée au conservatoire de Lille pendant 2 ans, puis au conservatoire de Paris en musique ancienne, et je suis partie me perfectionner au conservatoire de Palerme en Italie pendant 2 ans également.
Sympathique ça, les études à Palerme en Italie. Pourquoi le violoncelle ?
Eh bien, parce que j'ai toujours été attirée par les boîtes de violoncelle. C'est vrai, en plus, j'en voulais une absolument quand j'étais petite.
Juste la boîte.
C'était la boîte. Et après, je me suis faite à l'instrument. Maintenant, ça me plaît beaucoup. Voilà.
Oui, parce qu'effectivement, mais on peut mettre autre chose dans une boîte de violoncelle. On peut mettre une flûte, par exemple, une clarinette.
Oui, oui, on peut en mettre plusieurs.
Même. Ça, c'est assez amusant. Pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, la différence entre le violoncelle baroque et le violoncelle classique ?
Il y en a peu. L'instrument lui-même change peu. C'est une forme qui n'a pas évolué depuis la création, entre guillemets, de cet instrument, parce qu'il n'est pas né comme ça d'un seul coup. Ce qui change, c'est le montage en fait, de cet instrument, c'est-à-dire le matériau des cordes. On utilise des cordes en boyau au lieu des cordes métalliques, donc ce qui produit un son beaucoup plus riche en harmonique. On joue sans pic, par exemple, sans piquer, parce qu'à cette époque-là, ça se faisait plutôt comme ça. L'instrument est moins tendu, donc beaucoup plus résonnant, mais beaucoup moins puissant également, et moins adapté à des salles de concert modernes, plutôt à des lieux plus intimistes.
Alors, il y a une vraie différence aussi du côté de l'archet.
L'archet change énormément de choses. Alors, l'histoire de l'archet, c'est une histoire compliquée, mais... Effectivement, à cette époque-là, pour faire un parallèle qui est assez simple, l'archet est un crayon, c'est-à-dire qu'on peut articuler énormément les sons. La période baroque, c'est vraiment la période du texte. Dans l'opéra baroque, le texte est le plus important, beaucoup plus que le chant. Et l'archet moderne est plus un pinceau avec lequel on peint, on étale bien les couleurs et on lit les sons entre eux. Donc effectivement, en termes de rhétorique, ça change énormément.
Alors monter un ensemble de musique ancienne à Maubeuge, c'était une évidence tout de suite. C'était aussi facile d'ailleurs que de monter le Roset Grimpant à Boulogne-sur-Mer.
Bah, pourquoi pas, enfin, moi je suis née à Maubeuge, j'ai fait de la musique là-bas. Il n'y a pas d'ensemble de musique ancienne à Maubeuge. Il n'y a même pas d'ensemble de musique du tout.
Effectivement, ça vous ouvre un boulevard.
En tout cas, je parle classique. Musique classique. Donc oui, mais c'est très sympa, Maubeuge. On est bien accueillis.
Vous avez été accueillis donc à bras ouverts par la municipalité.
Mais la municipalité nous soutient effectivement beaucoup. On nous met des lieux à disposition. Monsieur le maire de Maubeuge nous est derrière nous, monte au front pour nous aider quand on en a besoin. Donc c'est parfait.
Donc vous avez l'essentiel de ce côté-là. Emiolia, pour tous ceux qui ne pratiquent pas la musique baroque, c'est un peu un nom énigmatique et pourtant il désigne quelque chose de précis au XVIIe et XVIIIe siècle.
Tout à fait, c'est un terme rythmique en fait. Une émiole, c'est une figure rythmique qui est encore utilisée aujourd'hui et qui était très en usage à cette époque.
Comment vous avez recruté vos musiciens ?
Ce sont tous des amis que j'ai rencontrés dans le cadre de mes études. Et c'est vrai qu'on tourne avec la même équipe depuis le début. Voilà, donc ce sont des amis musiciens. Il y a vraiment les deux aspects.
Oui, effectivement, tant qu'à faire pour jouer, autant être avec des gens qu'on apprécie.
Tout à fait.
Alors après 4 ans d'existence et 2 CD, on peut dire que c'est un vrai succès. Est-ce que ce succès vous a étonné ?
Oui, certainement. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est le fait que nous nous intéressions plus particulièrement au patrimoine musical régional. On a fait un gros travail, l'édition de ces deux disques sont des éditions d'œuvres totalement inédites qui n'avaient jamais été enregistrées. Et surtout, il y a un gros travail musicologique et historique qui est fait derrière. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Puis finalement, les choses se sont enchaînées. Le succès est arrivé à petits pas et finalement, ça marche plutôt bien, c'est vrai.
Ben, c'est tant mieux. Hein. Alors justement, on a parlé de patrimoine musical régional. Est-ce qu'à votre avis, il est méconnu, ce patrimoine ?
Il n'est pas méconnu, il est inconnu, je pense. Voilà, on a effectivement un patrimoine musical qui est extrêmement riche. Il y a des choses qui ont été faites au niveau du patrimoine musical régional vocal. Mais en ce qui concerne la musique instrumentale, il y a très peu de choses qui ont été faites. Surtout cette musique dite... Musique qui s'agit de la période révolutionnaire, donc une période vraiment de transition. Ce sont, donc là, on s'est intéressé à Marie-Alexandre Guénin, qui est un compositeur, on va dire, qui n'a pas le génie d'un Mozart, mais qui est extrêmement intéressant par le fait qu'il constitue un des maillons qui a perpétué jusqu'à nous une musique typiquement nationale. Et en fait, on oublie toujours qu'entre les stars de la musique, il y a eu des gens et que le génie ne naît pas de nulle part. Et nous, on s'intéresse en fait à ces hommes de l'ombre, ces femmes si possible. Là, pour l'instant, j'en ai pas trouvé, mais ces hommes qui sont restés un petit peu dans l'ombre d'autres musiciens plus connus et plus célébrés, et pas toujours à raison d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, à propos de musiciens de l'ombre, c'est Guénin, mais le musicien dans la lumière, c'est Gossec, là.
Oui. Et bien, figurez-vous que depuis qu'on a sorti ce disque... De façon assez unanime, même spécialistes de musique classique nous disent « Mais qui est ce Guénin ?» Et les gens préfèrent souvent les deux pièces de Guénin plutôt que les pièces de Gossec que nous avons enregistrées, qui étaient également inédites. Mais c'est vrai que Gossec a bénéficié d'une publicité il y a une trentaine d'années. Et on l'a sorti de l'ombre par des moyens médiatiques importants, ce dont n'a pas bénéficié Guénin. Moi, je pense qu'effectivement, en tout cas dans cet enregistrement, la musique de Guénin est meilleure que celle de Gossec.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'ai préféré les pièces de Guénin. Voilà. Donc, bon, voilà, je me sens mieux. mais Gossec, il n'est peut-être pas très apprécié pour sa musique de chambre, mais il a fait quand même d'autres œuvres intéressantes.
Tout à fait.
Quel est le point commun entre Gossec et Guénin ?
Leur origine, déjà géographique. Ils sont tous les deux nés dans le Hainaut, donc à... Guénin à Maubeuge et puis Gossec à Verny, qui est aujourd'hui côté belge. C'est une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Maubeuge et qui à l'époque était une ville française, sous domination française. Je pense que Gossec, qui était très connu à l'époque, a beaucoup aidé Guénin lors de son arrivée à la capitale. Notre programme de concert qui tourne avec ces œuvres-là s'intitule « Amis ou ennemis ?» Deux musiciens dans la tourmente révolutionnaire. En fait, on n'en sait rien. On suppose qu'ils ont été amis parce qu'on aide ses amis, pas ses ennemis. On leur met plutôt des bâtons dans les roues. Et là, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils sont restés amis de par leurs différences idéologiques ? Gossec plutôt révolutionnaire par les grands hymnes qu'on connaît, et Guénin qui est certainement resté royaliste jusqu'au bout, eh bien on n'en sait rien.
Les partitions que vous jouez, vous les avez trouvées où? Dans quelle bibliothèque?
Alors, les deux Guénin qui sont enregistrés, on a récupéré les partitions à la bibliothèque du Congrès à Washington. Elles n'étaient pas en France, on avait juste... on a d'autres choses de Guénin à la BN, mais pas ça. Et les Gossec, elles sont à la Bibliothèque nationale.
Bon, donc moi qui imaginais que vous aviez fouillé toutes les bibliothèques du Nord-Pas-de-Calais pour trouver ça...
Du tout.
Bon.
Il n'y a rien dans le Nord-Pas-de-Calais sur Guénin. Je les ai faites. Hein.
Ah oui, j'imagine. Voilà. Mais bon, comme il n'y a pas que Guénin dans la vie, quelles sont les bibliothèques qui musicalement pourraient vous intéresser pour des prochains enregistrements, par exemple?
À la BN, il y a quand même pas mal de choses. Après, côté belge, ils ont pas mal de choses. Je pense à Liège, je pense à Bruxelles. Où il y a beaucoup de musique consacrée à des musiciens natifs du nord de la France. Et puis après, c'est vrai qu'à Washington, on trouve tout.
Bon, vous êtes en train de nous dire que les bibliothèques du Nord-Pas-de-Calais ne sont pas très riches, c'est ça? Parce que Washington, ça fait...
Ce sont des musiciens qui sont originaires du Hainaut, mais
et qui sont partis,
qui n'ont pas fait forcément leur carrière dans le Nord. Donc effectivement, on n'a pas leur musique conservée dans nos bibliothèques.
Est-ce que vous avez envie de tomber sur la perle rare, le trésor que personne n'aurait trouvé, mais qui serait quand même un musicien qui aurait fait une carrière à Lille, disons?
Oui, pourquoi pas, mais pas forcément. Enfin, c'est pas l'objet en fait du travail. C'est sûr que si la musique n'est pas bien, on va pas faire un travail là-dessus. La musique, maintenant, la règle c'est que la musique soit belle, mais ça veut pas dire grand-chose finalement.
Intéressant.
Voilà, il faut qu'il y ait un intérêt, et chez les compositeurs mineurs, dits mineurs en tout cas, on peut trouver des choses très intéressantes pour le travail qu'on fait. Donc bon, après s'il y a un Mozart oublié qui est né à Lille, moi je veux bien, enfin je suis preneuse. Voilà.
Bon, on va vous laisser travailler donc. Un projet d'édition aussi?
Oui.
De partition?
Oui, le label Eurydisc qui édite le disque est en fait un label associatif que j'ai créé avec un de mes amis qui joue également dans l'ensemble. Et il y a un autre pan qu'on souhaite développer, effectivement, c'est l'édition de partition de ces musiques qui seront éditées par le label.
Oui, en toute logique. Est-ce que vous pensez déjà à votre troisième CD?
Oui, il sera enregistré au mois d'août, fin août. Et là, ce sera des pièces de Handel, donc rien à voir avec le nord de la France, mais des airs allemands, qui sont les seules pièces écrites en langue allemande par Handel, qui a exclusivement écrit en anglais.
Là, du coup, on est loin du patrimoine musical régional.
On en est très loin, mais la démarche est la même.
Certes, mais on est simplement dans la musique ancienne.
On ne fait pas, en fait, ce qui concerne le patrimoine musical régional...
C'est qu'un volet
de l'activité, mais on fait d'autres choses également. Mais on n'oublie pas le patrimoine musical régional. J'ai beaucoup de choses dans mes dossiers. Et dès 2013, il y aura un nouveau projet de musique régionale.
Très bien. Claire Lamke, merci. Alors, l'ensemble Emiolia, c'est le 03 27 62 21 29. Un site internet très bien fait où on trouve toutes les informations que l'on souhaite. Votre prochain concert, c'est le dimanche 24 juin, donc à Séricourt. C'est où Séricourt?
C'est dans le Pas-de-Calais.
Bon,
c'est
voilà.
Pas loin de Saint-Paul-sur-Ternoise.
Très bien. Et vous organisez du 9 au 12 juillet à Maubeuge un stage de musique ancienne. Votre nouvel enregistrement Guénin-Gossec, deux violonistes dans la tourmente révolutionnaire, vient de paraître chez Eurydis.